Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Bien, merci de nous suivre partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Nous allons aborder à présent un thème qui va certainement vous intéresser. Nous allons parler de l'amélioration, comment améliorer l'accès aux soins de santé mentale. En République démocratique du Congo, de nombreux malades mentaux sont visibles dans les rues, quartiers et communes. Certains se retrouvent sur les artères principales et autres places publiques, faute d'accès aux soins, leur état peut parfois s'aggraver et ces personnes peuvent devenir même des dangers publics. Alors que faut-il faire pour améliorer la prise en charge médicale des malades mentaux? Docteur Idelphonse Moutiba Mouchidi, directeur du programme national des santé mentale, est notre invité aujourd'hui. Docteur Moutiba, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Alors dites-nous docteur, comment améliorer l'accès aux soins des santé des malades mentaux, parce qu'on remarque, si on voit les malades mentaux déambuler, vagabonder dans les rues, à Kinshasa, même dans certaines provinces.
Merci pour la question, mais je commencerai d'abord par définir ce que c'est la santé. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas à une absence de maladie, d'infirmité. Mmh. Et mais, malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Que beaucoup de gens s'intéressent seulement à la santé physique. Or, la directrice de l'OMS a défini la santé, qu'il n'y avait pas de santé sans santé mentale. Mmh. Maintenant, on néglige souvent ça, ce qui fait que les conséquences que vous voyez, les gens qui, au départ, ont des problèmes psychosociaux, c'est ce que nous appelons des problèmes de santé mentale, mmh, qui finissent par devenir des maladies mentales. Or, des problèmes de santé mentale, nous en avons nous tous. Mais
donc il y a des niveaux différents, oui. On peut le dire ainsi.
Oui, là, les problèmes de santé mentale sont, c'est pratiquement l'antichambre de la maladie mentale. Mmh. Et or, effectivement, si on ne prend pas soin de préparer ou de s'occuper de ces problèmes de psychosociaux qui sont des problèmes de santé mentale, c'est ce qui amène souvent à la maladie mentale et dont la prise en charge nécessite vraiment beaucoup de moyens.
Alors docteur, dites-nous, quels sont ces problèmes qui évoluent jusqu'à devenir des maladies mentales?
Ok. Tous nos problèmes psychosociaux, par exemple les soucis, les difficultés existentielles, les conflits, les divorces, les conflits, les guerres et autres, par exemple ici chez nous au Congo, l'Est est particulièrement vulnérable, comme c'est une zone post-conflit, on a beaucoup de des personnes qui présentent la maladie mentale.
Voilà, vous avez parlé des guerres, vous avez parlé des difficultés de la vie.
De la vie.
On n'a pas d'argent, donc trop de problèmes, des conflits, les divorces et tout ça, ça peut un jour évoluer et conduire
à la maladie mentale.
À une maladie mentale. Oui. Alors, et pourquoi aujourd'hui on remarque que la prise en charge de ces malades mentaux pose problème, docteur?
Oui. Notre pays a souscrit comme stratégie de la santé, ce sont les soins de santé primaire. Ça veut dire quoi? On permet à tout le monde un accès facile à une prise en charge. C'est qu'une accessibilité sur le plan économique, sur le plan distance et sur le plan socioculturel. On l'a fait par exemple pour la gynéco, la pédiatrie, mais jusqu'à présent, mmh, malgré que la santé mentale fait partie des soins de santé primaire, une des composantes, mais elle n'est pas encore effective sur le terrain, ce qui fait que beaucoup de gens, au lieu de s'arrêter dans des problèmes psychosociaux, tombent dans la maladie psychosociale, dans la maladie mentale.
Mmh. Et pourquoi ce n'est pas encore effectif?
Bon, ça, y a d'abord beaucoup de problèmes. Sur le plan organisationnel, il faut former les gens pour qu'ils puissent exercer. Il faut les médicaments, il faut les structures, Il faut la sensibilisation, comme vous êtes en train de la faire ici, pour prévenir justement la maladie mentale. Mmh.
Donc il faut, y a pas assez de structures. Vous parlez des structures. Non. On peut comprendre par là qu'il n'y a pas assez de structures de prise en charge des malades mentaux.
Imaginez-vous un pays comme le nôtre. Nous n'avons que au total à peine 6 structures. Une seule structure de l'État et 5 pour les structures confessionnelles.
Et là, c'est pour la ville qui est Kinshasa seulement.
Non, pour toute la République.
Pour toute la République.
Pour toute la République.
6 structures de prise en charge.
6 structures de prise en charge
sanitaire. Qui se trouvent où exactement?
Bon, nous en avons une ici à Kinshasa, la plus grande, c'est le Centre neuropsychopathologique et au nord
du CNPP.
Le CNPP, oui, c'est parmi la grande, parmi les grandes. Et nous avons 5 structures au nord Kivu, au sud Kivu, au Katanga, au Kasai occidental, à Kananga, et bien maintenant là, on est en train d'installer aussi au Bandundu. Or, 80% de nos populations se trouvent dans les zones rurales et malheureusement, il n'y a pas équité dans la distribution de ces soins. Vous savez, quelqu'un qui est là pour venir, par exemple, à Kinshasa, quelqu'un qui est à Kanyabayonga, qui fait une crise d'épilepsie pour maîtriser, on ne doit pas lui demander de venir à Kinshasa. Mmh. Or, s'il y avait des gens formés et qu'il y avait des médicaments sur place, mmh, on pouvait prendre en charge convenablement, du moins les premiers pas.
Oui.
Des soins pour ces malades qui sont loin des structures.
Et quelle est la province où on retrouve beaucoup plus un taux élevé des malades mentaux? Certains parlaient de la province du Bas-Congo.
Pour le moment, on n'a pas de statistiques, ça il faut être honnête, mais c'est qu'on constate, quand on va dans les zones de l'Est, il y en a beaucoup, avec tout ce qu'il y a eu comme traumatisme, des catastrophes naturelles ou anthropiques, il y en a beaucoup, beaucoup. Et tous ces, puisque ces gens-là n'ont personne pour les prendre en charge, et ils sont abandonnés sur la rue.
Mais vous avez dit qu'il y a, vous avez une structure au nord Kivu et au sud Kivu.
Oui, des structures de prise en charge.
Des prises en charge.
Oui. Oui, tout le monde n'a pas les moyens pour y aller.
Voilà, d'abord la grande difficulté, vous avez dit il n'y a pas assez de structures, il n'y en a que 6, et une autre difficulté, il n'y a pas un personnel qualifié.
Les ressources humaines, il n'y en a pas. Mmh. Nous avons par exemple, pour ce qui concerne une population de 100 000 habitants, il faut au moins plus de 10 psychiatres. Il faut au moins plus de 20 infirmières spécialisées, 20 psychologues, cliniciens. Tout ça, nous sommes toujours en dessous de zéro. Zéro pour 100 000 habitants pour le psychiatre, zéro même des gens formés. Renforcer dans les capacités de s'occuper des malades mentaux, vous voyez que nous sommes que 0,000 pour ce qui concerne les ressources humaines.
Et pourquoi? Parce que dans nos universités, il n'y a pas de filière, des formations, des gens qui peuvent prendre en charge les malades mentaux.
Je vais vous surprendre, nous sommes le seul pays à pouvoir former à tous les niveaux les prestataires des soins de santé mentale. Nous avons une université ici qui peut former des spécialistes en neuropsychiatrie et beaucoup sont même dans le monde.
Oui. Mais quel est le problème? Où se trouve alors le problème?
Les vocations. Les gens, quand on parle de santé mentale, ils voient le malade mental sur la rue. Mm. C'est ce qu'on appelle les schizophrènes. Or, quand on s'occupe, on voit l'histoire des malades, c'est s'occuper de ces gens-là. Oh non, nous tous, nous sommes...
Les jeunes gens ne s'intéressent pas, hein. Cette filière n'a pas assez de candidats.
Il n'y a pas assez de candidats. Je me rappelle quand nous, on avait terminé la spécialisation, on a fait 10 ans sans assistant. C'est maintenant que les gens ça commencent à s'intéresser. Je donne cours à l'ISTEM. La plus grande promotion que j'ai eue, c'était 12 étudiants. Alors que dans les autres sciences infirmières, par exemple accouchement, et pédiatrie, ils sont à 200, 300. Mais pour les vocations, il y a même des promotions où je n'ai qu'une seule étudiante, ou un seul étudiant, ou deux, trois par promotion. C'est que les gens craignent pratiquement de faire les filières de santé mentale.
Pourquoi? Parce qu'ils pensent directement à, ils voient les fous qui sont dans la rue et ils se disent, bon, s'il faut traiter des gens à des cas pareils, c'est très compliqué.
En tant que responsable de la santé mentale, il faut éviter d'utiliser ce mot fou. On parle de malade mental. Le mot fou, c'est un mot qui est péjoratif, qui rejette et qui stigmatise. Parce que nous tous, nous sommes susceptibles de le devenir à un moment ou l'autre. On n'a pas de garantie qu'on peut traverser cette vie sans présenter une maladie mentale. mental.
Voilà. Alors, un autre élément qui fait que aujourd'hui l'accès aux soins de santé mentale n'est pas amélioré dans notre pays. Vous avez parlé d'abord de problèmes des structures. Il n'y a pas assez de structures. Il n'y a pas assez de ressources humaines. Il n'y a pas de médicaments aussi. Vous avez dit.
Oui, les médicaments sont d'abord rares et à un coût prohibitif souvent. Je vous dis. Si nous avons fait une étude pour voir ce que ça coûte l'hospitalisation d'un malade pendant 3 mois, on a une moyenne de $20 par jour, avec les anciens produits. Et les nouveaux, c'est encore plus cher. Donc l'accessibilité aux médecins et aux médicaments est vraiment...
Mais généralement, c'est des produits importés.
Bon, il y a des génériques qu'on fabrique, mais le gros vient de l'extérieur. Et on a même des problèmes, puisque je viens de l'Est là-bas, pour approvisionner en médicaments, c'est une très longue route à parcourir avant d'avoir ces produits-là.
Voilà, à part ça, quelles sont les autres difficultés qui empêchent au service de santé mentale de bien fonctionner dans notre pays?
Il y a d'abord les vocations qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas aussi des formations continues. Parce qu'en principe, il fallait que dans toutes les structures, on n'a pas seulement besoin des spécialistes, on n'en aura pas d'ici peu. Donc ce sont les prestataires, ceux qui sont sur place, dont on peut renforcer les capacités pour qu'ils puissent prendre en charge les malades. Donc, et ensuite, il n'y a pas assez de campagnes de sensibilisation sur la maladie mentale. Puisque ça, avec une sensibilisation, on a au moins 50% de malades de personnes qui peuvent éviter de devenir des malades mentaux par la sensibilisation seulement, qui ne coûte pas beaucoup en notre terre.
Bien. Comment améliorer l'accès aux soins de santé mentale? Nous avons en ligne Symphorien Bidoya de Kananga et Sadin Gembo nous appelle de Matadi dans la province du Bas-Congo.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Comment améliorer l'accès aux soins de santé mentale? Symphorien Bidoya, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous.
Quelle est votre question, Symphorien?
Oui, j'ai des questions. La première, parmi les causes que l'invité a évoquées qui causent les maladies mentales, est-ce qu'il y a aussi les fétiches? Parce qu'il y a des gens en Kananga qui, après avoir touché aux fétiches, ils deviennent fous. Est-ce que cette maladie, la forme de cette maladie mentale peut être guérissable? Et puis, la deuxième question, comme l'invité l'a dit, ici à Kananga, nous avons un centre d'encadrement, mais nous remarquons que sur la ville, il y a un bon nombre de fous. Bon, l'invité a refusé ce mot-là, un bon nombre de malades mentaux qui sont sur la ville. Comment on peut parvenir à mettre fin à réduire le nombre de ces malades? Parce que on voit que même pour aller dans ces centres-là, il faut que les gens ou la famille de ces malades-là puissent avoir de l'argent pour qu'ils puissent aller payer dans ces centres. Même dans ces centres-là, on remarque que les gens fuient là-bas, il n'y a même pas à manger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le nombre de ces malades mentaux sur la ville? Je vous remercie.
Ok, Sadin Gembo, vous êtes à Matadi, bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour, je vous salue, je salue aussi l'invité et tous les auditeurs. Ma préoccupation, je commence d'abord peut-être à dire par rapport à ce que l'invité a dit sur les causes. Alors, je voudrais un peu savoir, est-ce que ceux qui sont appelés communément les fous, on peut devenir fou parce qu'on a eu peut-être un problème, un souci, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une différence? C'est vrai, une dépression aussi, c'est une maladie mentale. Mais si on peut faire une vraie différence entre une dépression d'une manière isolée et les maladies mentales, comme par exemple un fou, on peut devenir fou parce qu'on a un souci, soit une déception amoureuse ou une révocation au boulot, on peut devenir fou. Et il y a des cas par rapport à ça. Et peut-être ma deuxième préoccupation qui peut être un peu plus courte, je voudrais demander à l'invité, comme lui il soigne ces maladies-là, ceux qui sont appelés communément fous, est-ce que dans son répertoire ou dans son histoire depuis qu'il soigne ces maladies-là, il y a des fous que tout le monde connaît, que ce qu'on appelle fous, que lui il est déjà arrivé à soigner et puis ils sont devenus des personnes normales dans la société?
D'accord, merci. Docteur Moutiba.
Merci beaucoup. Je commence d'abord par... la question de Symphorien à Kananga. Au fait, c'est pratiquement la même question.
Docteur, restez devant votre micro. Oui. Voilà, allez-y.
Oui. Quand on parle de fétiche, l'être humain, c'est quelqu'un qui est composé d'une partie physique, d'une partie mentale et d'une composante spirituelle, c'est-à-dire le fait de croire dans des forces transcendantales. Ça, on ne peut pas empêcher les gens de croire. Mmh. Alors, tous ces facteurs-là, dans la prise en charge de ces malades, nous en tenons compte. Par exemple, je donne l'exemple de Sadi qui est au Bas-Congo. Ils ont le système matrilinéaire, alors que les Bolobos sont des patrilinéaires. Quand un Mukongo vous dit qu'il a des problèmes avec son oncle paternel, son oncle maternel, il faut le prendre au sérieux, puisque pratiquement cet oncle-là a droit de vie ou de mort sur cet enfant. Mmh. Je vais vous donner un exemple. J'avais un patient qui est venu de Californie qui faisait le pilotage. Mais il a reçu une lettre de son oncle qui lui a dit que depuis qu'il est parti, tu n'envoies rien. Et il a signé à la fin Kadiamboko. Or, dans le Bakongo, chez le Bakongo aussi, Kadiamboko, c'est une façon de dire, bon, ça ne fait rien. Et c'est une menace, dit, nous verrons. Mmh. Et effectivement, ce garçon-là n'a pas présenté sa session. Et il a été ramené à Kinshasa.
Et il est venu vous voir, consulter.
Oui.
On l'a amené chez vous.
Oui, on l'a vu. Mais malheureusement, comme l'oncle a reconnu que c'était lui le responsable, il l'a retiré, il a dit que moi-même je vais le soigner. Jusqu'à aujourd'hui, il est sur la rue. Je prendrai un autre...
Il est toujours dans la rue.
C'est dans la rue.
Il est devenu...
Complètement.
Ouais. Oui. Il est atteint de la folie.
Oui, il est devenu malade mental et vagabond en divagation sur la rue.
Alors, et Symphorien veut savoir, pour les cas des gens, par exemple, qui ont touché aux fétiches et qui sont devenus fous parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'on leur avait dit par les féticheurs, est-ce que vous êtes capable de pouvoir guérir ces personnes-là?
C'est ce que je disais. Nous prenons l'être dans le soin d'une manière holistique, sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel. Mais cet aspect-là spirituel, nous la laissons à ceux qui développent, puisque nous, en tant que médecins, mais les deux-là, le physique, le mental, nous pouvons le prendre en charge. Et effectivement, beaucoup de gens deviennent malades à cause de... puisque les êtres humains peuvent être influencés positivement ou négativement par des tierces, selon les cultures. Mmh. Le Bakongo, c'est l'oncle maternel, le Bolobo, c'est la tante Mukaji. Si la tante Mukaji raconte des choses...
La tante maternelle.
La tante maternelle, oui. La tante paternelle.
Paternelle, oui, voilà.
Qui a le pouvoir chez les Bolobos. Mmh. Et si elle vous interdit un mariage, vous y allez, vous allez constater des phénomènes. Et dans des cas pareils, nous conseillons que la famille puisse s'asseoir pour trouver des solutions. Et d'autres, si parlent des envoûtements, mais on les envoie là-bas. Et il y en a beaucoup qui, en plus de notre traitement, qui ajoutent cet aspect-là. Mais le résultat est le même, et qu'il y a maladie mentale.
Voilà, et Symphorien dit à Kananga, il y a un centre de prise en charge, comme vous l'avez dit, mais il dit, les gens n'y vont pas, ou soit quand les gens y vont, ils ne sont pas bien pris en charge, il n'y a pas de médicaments, les gens ne sont pas bien traités, et il constate que de plus en plus, il y a beaucoup de malades mentaux dans les rues de Kananga.
Effectivement.
Comment résoudre ces problèmes?
Les moyens, c'est comme on dit, le nerf de la guerre. En principe, nous, en tant que acteurs au ministère de la Santé, ce que nous souhaitons, c'est quoi? C'est l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaire. Comme ça, l'accès sera plus facile. Au lieu d'acheter des produits de spécialité, l'État peut mettre en stock des médicaments génériques qui donnent des bons résultats aussi. Donc, il faut que... Comme solution, c'est l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaire et l'accès sera plus facile sur le plan économique, sur le plan géographique et sur le plan socioculturel.
Bien, avant de répondre à Sadi, nous allons accueillir Adrien de Lubumbashi et Aimé Minaku qui nous appelle depuis Ziro. Adrien Amouyeti, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody Daniel, bonjour aussi au directeur Mouteba Mouchidi. Avant de poser mes questions, j'aimerais d'abord féliciter la mairie de Lubumbashi pour ce qu'elle avait fait l'autre fois, de prendre tous les malades mentaux qui ont trouvé éparpillés dans différentes communes de Lubumbashi. Mais jusque-là, il n'y a pas la suite, il n'y a pas de suite. Donc, ma première question est de savoir, Monsieur Mouteba, pourquoi la prise en charge de ces malades mentaux ne marchent pas du tout dans dans des hôpitaux où l'on trouve des malades mentaux qui est chez les docteurs traditionnels. Et la deuxième, j'aimerais aussi savoir si la prise en charge de ces malades est gratuite. Merci, M. Tchouti.
Bien. Aimé Minaku, depuis Siro, bonjour. Aimé, bonjour. Elle n'est plus en ligne. Docteur Moutiba, revenons d'abord à la question de Sadi qui dit quelle est la différence entre la dépression et la folie? Est-ce que peut-on devenir un malade mental à cause des déceptions, une déception amoureuse, un divorce ou un problème de la vie?
Effectivement, ce que madame, monsieur Sadi est en train de dire, ce sont les différentes classes de pathologies mentales. Hein? On peut appeler la dépression, l'accès maniaque, tout ça, c'est une classification de la maladie mentale. Le tout, le groupe qui englobe tout, c'est la maladie mentale. Et elle a même demandé si il y a ces malades finissent par guérir. Je répète encore, appelons-les les malades et pas fous, c'est un terme stigmatisant. Nous avons beaucoup de gens qui guérissent. Nous avons, même parmi les plus, les professeurs d'université, il y en a qu'on a soignés. Il y a des grands hommes politiques, il y en a qu'on a soignés. Il y a des étudiants, il y en a qui reprennent les études. Je me rappelle d'un étudiant que j'ai suivi depuis deuxième graduat. Maintenant, il est juge président quelque part, 15 ans après. Et il continue toujours à, donc.
Il a retrouvé sa santé mentale.
Il a sa santé, il dirige même, son parquet sans problème. Donc, il y a des, enfin, on n'aime pas tellement utiliser chez nous le terme guérison, on parle plus de stabilisation. Puisque même nous tous, je répète encore, nous sommes stabilisés, c'est que, nous ne sommes pas épargnés de devenir malades mentaux. Pour Maman Adrienne à Lubumbashi, merci beaucoup.
Il a dit que la mairie avait récupéré tous les malades mentaux, mais qu'est-ce qu'on a fait de ces personnes? Est-ce que la prise en charge, elle dit qu'il n'y a pas de suite jusque-là. Alors elle se pose la question de savoir pourquoi la prise en charge ne marche pas souvent.
C'est pour ça que faire des actions spontanées, ce n'est pas ça résoudre le problème. Il faut le voir dans toute son entièreté. Et c'est quand je parle d'intégration de la santé mentale dans les soins de santé, ça signifie quoi? Vous allez dans la communauté où vous faites de la sensibilisation pour l'identification facile, et vous allez dans les structures c'est le centre de santé. Si le centre de santé est dépassé, vous allez dans l'hôpital général. Oh, c'est ça. Oh, quand on a pris les gens sur la route, est-ce que on a assuré l'apport en médicaments? Est-ce qu'on a assuré l'apport continu, apport la nourriture, leurs conditions de détention? Où on peut mettre de l'argent pour un coup, mais on peut pas soutenir le reste.
Parce qu'il y a certains malades mentaux qui sont violents. Vous pouvez les prendre, vous les amener quelque part, ils sont très violents.
Bon, ça fait partie de la maladie. C'est une catégorie de malades. D'ailleurs, nous préférons ces cas-là, sont faciles à gérer.
Avez déjà rencontré des cas comme ça, plusieurs fois, des malades mentaux violents?
Mais il y en a beaucoup. C'est chaque jour, en psychiatrie, qui casse et qui agresse même. Moi, en 30 ans de carrière, j'ai été agressé plusieurs fois aussi, mais...
Et comment vous êtes tiré d'affaire? Des malades mentaux agressifs.
Il y a des médicaments. Dès que vous donnez le médicament, vous les calmez et ils restent dans le lit comme n'importe qui. Puisque dans le temps, on les mettait dans des asiles. Mais maintenant, non. Ils sont traités comme des malades avec un lit. Et seulement, au lieu de faire la camisole des forces, nous faisons une camisole chimique. Et ils dorment, après un temps, ils se calment et ils sortent sans problème. Et quand vous leur demandez, vous rappelez ce qu'ils ont fait, ils regrettent même.
Regrettent même ce qu'ils ont fait.
Oui, ce qu'ils ont fait, oui.
Voilà. Et Adrien disait que certains recours même aux féticheurs vont voir les guérisseurs traditionnels pour des cas comme ça. Est-ce que vous pensez que les guérisseurs traditionnels peuvent guérir des cas de maladies mentaux?
Bon, ça, je ne peux pas répondre. Ce sera difficile pour moi de répondre à la place des guérisseurs, mais... Nous avons fait même une étude de clinique universitaire. Nous savons que pour les maladies mentales, les gens mettent beaucoup de temps avant d'arriver dans des structures de type occidental. Minimum, c'est 3 mois. Et ils passent dans les médecines parallèles comme justement les tradis praticiens. Même pendant l'hospitalisation, il y a des tradis praticiens qui viennent à l'hôpital quand le personnel n'est pas là. À la sortie encore, ils vont encore chez les tradis praticiens ou bien dans les prises en charge spirituelles. Ça fait partie de l'existence de tout être humain. Il y en a qui sont plus rassurés quand ils passent avant plutôt que les médicaments. Je vous dis, les histoires de croyances là, on ne peut pas les empêcher. Et on ne peut pas les gérer à l'avance. Et il y a des gens qui vous amènent, comme vous l'avez dit, leurs membres de famille, puisqu'il y a une agressivité, donc l'atmosphère de vie est perturbée, on vous l'amène pour que vous calmez. Mais ils vous disent, docteur, calmez-le seulement, mais nous-mêmes, nous savons ce que nous devons faire après. Et souvent, aller consulter, c'est...
Les guérisseurs, là.
Oui, oui.
Et Adrien dit, est-ce que les soins, les soins de santé mentale sont gratuits ou c'est payant?
Les soins ne sont comme pour les autres soins, ça doit se payer, mais comme ce sont des soins qui coûtent cher, on souhaiterait que ça soit en gros sponsorisé par l'État pour diminuer le coût, puisque c'est souvent très cher, les médicaments. Alors si on peut, l'État peut sponsoriser, par exemple, pour ce que nous souhaitons, nos programmes nationaux, par exemple pour le VIH et SIDA, et la tuberculose, et que les maladies mentales chroniques soient aussi incluses parmi les maladies que l'État peut prendre en charge.
Maurice nous appelle de Kalemi, dans la province du Katanga. Maurice, bonjour.
Bonjour, je dis Kachama, c'est Maurice Kabange de Kalemi.
Maurice Kabange, quelle est votre préoccupation?
Eh bien, merci au docteur. Parmi les éléments qu'il a donné comme cause, que peut dire le docteur si nous ajoutons aussi l'automédication comme cause de la maladie mentale? C'est la première question. Et la deuxième, existe-t-il un financement extérieur pour la prise en charge des malades mentaux? Et la troisième question, quelle est la politique prise dans notre pays pour multiplier les structures de prise en charge? Merci.
Bien, merci. Docteur Moutéba, vous avez la parole.
Ok. Le fait même de s'automédiquer montre déjà qu'il y a un problème. Et ça dépend de quel médicament aussi. Nous avons par exemple ici à Kinshasa, parmi les chargeurs, les badauds qui prennent le diazépam, qui prennent ce qu'on appelle les roches et tout ça, ça amène à la maladie mentale. Et ça montre déjà qu'il y a un problème en amont et qui amène aussi un autre problème.
Et pourquoi ils prennent les diazépans?
Par exemple, les chargeurs ont besoin de ça pour que quand ils doivent vous donner une place devant, et qui n'aient pas peur, qui soient un peu dans les vapes, et quand ils vous regardent dans les yeux, vous êtes obligé de lui donner l'argent qu'il cherche. Donc c'est pour vous intimider quand il est dans cet état-là, presque second. Alors, l'automédication est très très mauvaise, surtout pour ce qui concerne les psychotropes, c'est-à-dire les produits qu'on utilise pour les soins de la santé mentale.
Mais est-ce que vous recevez des financements extérieurs? C'est la question de Maurice, de sa deuxième question.
Bon, la santé, en général, c'est une prérogative de l'État congolais. Mais il y a aussi des partenaires qui contribuent pour l'un ou l'autre domaine. Et effectivement, nous avons quelques partenaires, par exemple pour les 5 hôpitaux psychiatriques, c'est sous le label de Frères de la Charité. Par exemple ici à Kinshasa, ce sont des appuis au fait. Ils appuient le gouvernement dans certains, comme ici nous avons le Sœur du Sacré-Cœur avec le centre Téléma, c'est un appui qu'ils apportent à l'État. Donc il y a quelques
appuis
partenaires qui nous appuient, mais c'est vraiment insuffisant par rapport à l'ampleur de la tâche.
Voilà, c'est insuffisant par rapport à l'ampleur de la tâche. Il y a un auditeur qui nous a posé la question de savoir, il nous a donné un témoignage, il habitait quelque part où une dame, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle faisait une crise de folie. Et quand elle donnait naissance au bébé et tout s'arrêtait. L'auditeur veut savoir, est-ce qu'il y a un lien entre la grossesse et cette crise de folie?
Voilà, c'est, comme je disais, une catégorie de pathologie. On appelle ça les psychoses puerpérales. C'est-à-dire, ce sont des maladies psychiatriques qui surviennent pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant pendant l'allaitement. Donc c'est une catégorie spécifique de maladie mentale qui n'apparaissent qu'à une certaine catégorie de femmes. Mmh. Et d'ailleurs, dans des pays où ils n'ont pas beaucoup d'enfants, on fait carrément la ligature tubaire. Mais ici, chez nous, et il y a des femmes comme ça, à chaque enfant, il y a toujours la maladie. Donc, c'est une psychose.
Vous avez déjà reçu des cas comme ça, docteur?
Nous en avons plein, c'est presque chaque jour.
Donc, chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle fait...
Elle revient, mais comme ici, chez nous, on ne pouvait pas forcer la ligature. Mmh. Et la... L'accouchement chez nous, c'est encore très valorisant, c'est difficile. En principe, là où ils sont développés, on conseille la ligature, donc arrêter.
Elle ne doit plus concevoir, oui. Sinon elle va faire des crises.
Des crises encore.
Encore, oui. Alors, docteur Mouteba, on retient que pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale dans notre pays, vous avez d'abord parlé de la sensibilisation au niveau communautaire.
Oui, oui.
Ensuite, on doit intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est-à-dire, notre pays est organisé en zone de santé. Mmh. Une zone de santé, c'est pour raccourcir les distances et que la zone amène aussi les médicaments et a aussi le personnel qu'il faut pour la prise en charge. Mmh. Hein? Le pays est très vaste. Nous avons plus de 515 zones de santé. Et si nous avons la santé mentale dans chaque zone de santé, effectivement, l'accessibilité sera facile sur le plan géographique, sur le plan économique et sur le plan socioculturel.
Docteur Mouteba Mouchidi Delphonse, directeur du Programme National de Santé Mentale, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Et à la prochaine.
À la prochaine. C'est à moi de vous remercier vraiment.